Vivacité, ma radio complicité. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré.
Nous allons cibler aujourd'hui les personnes qui se trouvent trop grosses. Voilà, des personnes qui sont en surpoids ou des personnes qui veulent tout simplement perdre des kilos. En tout cas, avoir un autre rapport à la nourriture, parce qu'elle est là pour ça. Elle m'a bien dit de ne pas parler de régime. Ce n'est pas un régime que vous allez nous présenter, Ingrid Richaud, mais bien une méthode. Vous êtes une psychologue clinicienne, une psychologue spécialisée dans la prise en charge des troubles du comportement alimentaire. Alors, vous souhaitez nous parler de votre philosophie. Vous serez ravie pendant 2 heures, Ingrid, de partager votre passion, de répondre aux éventuelles questions vous interpellant en tout cas cette méthode. Comment apprendre à s'écouter, comment apprendre à écouter son corps pour que l'alimentation devienne en quelque sorte, entre guillemets, intuitive. Ingrid Richaud, vous êtes donc convaincue par cette méthode que vous allez nous présenter, car une fois apprise, dites-vous, elle ne peut pas être désapprise. Donc c'est
exactement,
ça. Une fois qu'on a appris cette méthode, on ne peut plus la désapprendre. Et en tant que psychologue, donc, si j'ai bien tout compris, vous aidez vos patients à se faire confiance, à s'aimer davantage pour ainsi mieux respecter leurs sensations et décrypter avec eux leurs émotions, leurs besoins qui sont malheureusement souvent confondus avec le besoin ou l'envie de manger sans une réelle faim derrière. C'est ça ?
Tout
Quand on n'est pas bien, on a faim.
Tout à fait. En fait, le réel but de cette manière de manger, c'est vraiment d'arriver à manger sans sacrifice, sans culpabilité, oui, ni frustration, avec plus de plaisir et plus de sérénité.
D'accord.
Et donc, comment on fait ça? Alors déjà, c'est une approche thérapeutique qui a été développée par 2 médecins français, dont le docteur Apfeldorfer et le docteur Zermati, qui actuellement ont aussi une association en Belgique et en France, qui est le GRO. Donc le gros, c'est-à-dire le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids.
Oui.
Et alors là, il y a beaucoup de diététiciennes, quelques psychologues qui ont adopté cette approche pour aider leurs patients à mieux gérer leur poids. Il y a actuellement aussi le centre d'orthonutrition à Tournai qui prône cette approche-là anti-restriction, anti-régime depuis plus de 12 ans. Et c'est aussi une équipe pluridisciplinaire. C'est d'ailleurs là où j'ai démarré avec la psychologue Anne Marais et son équipe par rapport à ça.
J'espère qu'on aura des témoignages de personnes qui vous ont suivi. Moi j'ai appris votre existence grâce à un témoignage. Quelqu'un qui était venu déjà dans cette émission en tant qu'invité, qui m'a dit « Est-ce que tu connais cette méthode ? Moi, c'est une méthode qui m'a beaucoup aidée. Et donc, j'aimerais bien que tu t'y intéresses et j'aimerais bien que tu fasses une émission là-dessus. » Donc, vous êtes là pour ça. Encore une fois, j'ai pas trop voulu en savoir plus parce que je veux la découvrir comme les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, on vous présente cette méthode, puisque l'objectif, vous l'avez bien compris, de cette méthode que nous vous présentons ce lundi, c'est que le patient, donc vous, moi, nous puissions perdre du poids avec plaisir, avec douceur, avec bienveillance envers nous-mêmes. Bien ça, hein ? Il ne s'agit donc pas d'imposer un poids à atteindre ou une limite dans le temps. Pardon, chacun va à son rythme. Alors là, on demande aux auditeurs de venir nous dire s'ils ont déjà entendu parler d'une méthode similaire. Une méthode anti-régime, une méthode anti-frustration. Est-ce que vous avez déjà peut-être suivi ce genre de stratégie alimentaire ? Est-ce que vous êtes convaincu peut-être aussi que vous nourrir résulte d'un besoin physique, mais aussi d'un besoin émotionnel ? Ça veut dire que quand vous n'êtes pas bien, vous avez tendance à manger plus ou à manger mal, ou à manger plus sucré, ou à manger plus salé. Enfin bref, est-ce que vous avez l'impression que quand vous vous ennuyez, quand vous avez eu une journée difficile au travail, eh bien, il n'est pas rare que le soir, vous mangiez plus que la veille. Quel est donc votre émotionnel ? Quel est le degré, en effet, de votre émotionnel par rapport à votre physique, par rapport à votre besoin de vous alimenter ? Qu'est-ce qui guide un petit peu ce besoin de s'alimenter ? Qu'est-ce que vous remarquez par rapport à votre besoin de vous alimenter ? Mais surtout, connaissez-vous des personnes qui ont suivi aussi ce genre de méthode ? Parce qu'elle n'est pas la seule. En tout cas, elle nous présente aujourd'hui la sienne. Ingrid Richaud, qui est notre invitée. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une méthode pareille ? Je veux changer ma façon de m'alimenter. Je crois que c'est ça qui est intéressant, non ?
Ou mon rapport à l'alimentation.
Mon rapport à l'alimentation. Je veux changer mon rapport à l'alimentation pour
la relation, oui, la relation que j'ai avec l'alimentation.
Pour que tout ça perdure dans le temps, bien sûr. Parce que si je veux perdre du poids, ça sera limité dans le temps. D'ailleurs, je vous demanderai dans quelques instants, Ingrid Richaud, pourquoi est-ce qu'en effet vous démarquez en disant « moi, cette méthode est un petit peu une méthode anti-régime, une méthode anti-frustration ». On verra pourquoi, en effet, ces régimes, parfois, ont tendance à ne fonctionner qu'un certain temps, en tout cas s'il y a du laisser-aller. Ingrid Richaud, elle est psychologue clinicienne, elle est psychologue spécialisée dans la prise en charge des troubles du comportement alimentaire. Vous vous êtes très très vite intéressée à l'approche anti-régime, donc de ces deux personnes dont vous nous avez parlé, qui essaient de nous faire prendre conscience qu'il faut retourner à une alimentation intuitive. Qu'est-ce qu'on appelle l'alimentation intuitive ? On en parle pendant donc 2 heures avec vous. C'est une approche anti-régime, en quelque sorte, puisque cette approche anti-régime consiste en une écoute attentive des signaux de faim et de satiété, et donc en une écoute accrue de son corps et de ses besoins. Et donc, quelle est la différence entre le régime que vous concevez comme un régime trop restrictif ? Tout régime est restrictif pour vous ?
Alors, oui, effectivement, dans les régimes, il y a un point commun, c'est qu'il y a du contrôle, donc une sorte de restriction. Il y a des aliments tabous, des aliments qu'on diabolise. Donc, dans mon approche, ou en tout cas celle que j'utilise, on n'a pas d'aliments tabous. Il faut vraiment arriver à réapprivoiser les interdits en se permettant de les manger pour, en fait, banaliser cet aliment pour pas une fois qu'on commence, on ne sait plus s'arrêter. Ça, c'est souvent lié à une restriction au préalable. Mmh. Donc, déjà, pourquoi c'est pas un régime ? Parce que déjà, moi-même, je n'y crois pas par rapport à ce que j'ai pu apprendre des différents régimes. Ça marche effectivement sur le court terme, mais sur le long terme, ce n'est pas bon pour le mental, ce n'est pas bon pour la santé. Mmh. Ça engendre souvent des déséquilibres alimentaires et psychologiques. Et donc vraiment, enfin, il y a aussi une étude de l'étude de ANSES, donc de l'Agence nationale de sécurité alimentaire, en 2010, qui a étudié à peu près 15 régimes les plus populaires, oui, dont le régime du camp et d'autres régimes très populaires, ils ont démontré qu'effectivement 75% des personnes vont perdre du poids avec ces régimes dans les quelques mois, mmh, mais au bout d'un an, 80% ont déjà repris le poids perdu. Mmh. Et de 3 à 5 ans après, 95% des personnes ont repris tout le poids perdu, et voire ils ont pris encore plus, mmh, de poids, et avec ça, des désordres médicaux, psychologiques. Mmh.
Mais quand vous dites sans tabou, moi j'ose pas y croire qu'on est sans tabou. On peut quand même pas manger tout ce qu'on veut à n'importe quel moment. Enfin, c'est une question sans doute très générale que je pose, et vous allez nous indiquer, parce que j'ai bien compris, donc c'est vraiment essayer de conscientiser que quand on a faim, on doit manger parce qu'on a faim, c'est ça ? Et ça doit donc, si j'ai faim parce que je veux essayer d'équilibrer un sentiment difficile que j'ai à gérer, c'est ça, je me reporte sur la nourriture, donc c'est ça qu'on essaie de gérer, quoi, c'est ça la méthode.
Alors, il faut pas non plus que ça parte dans le contrôle de manger que quand on a faim. Donc c'est là où c'est un petit peu plus ambigu à trouver. Donc déjà, trouver sa bonne faim, c'est tout un travail. Ça demande un certain effort déjà d'écouter son corps. Et c'est très difficile d'écouter son corps souvent quand déjà on n'accepte pas son corps. Donc beaucoup de personnes disent « j'accepterai mon corps une fois que j'ai perdu le poids ». Et là, je ne veux même pas me regarder dans un miroir, je ne peux pas monter sur la balance sans que toute ma journée soit foutue. Mmh. Donc effectivement, la première étape, c'est d'apprendre à accepter son corps. Accepter son corps, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pouvoir se regarder sans se juger. Et dire les choses objectivement. Essayer de trouver des choses qui nous plaisent plus que d'autres, pas globaliser. Souvent, on généralise. Il y a toujours au moins une ou deux choses, ou voire plus, qui nous plaisent chez nous. Et il faut pouvoir mettre ça en valeur.
Attendez, je vais demander à Robert s'il accepte son corps. Robert, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous acceptez votre corps ? Fin 2015, début 2016, que vous acceptez votre corps, Robert ?
Oui et non, c'est-à-dire que le problème, c'est que moi, je lie le poids de mon corps, en fait, à une sécurité par rapport à l'agressivité externe. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'étais évidemment très grand et très mince, et j'étais aussi un peu la cible de mes compagnons d'école, pas toujours très gentils. Et finalement, avec le temps, et parce que j'ai pratiqué aussi des sports de combat, j'ai vu que plus je prenais du poids, plus je devenais puissant, et plus, évidemment, je me sentais en sécurité par rapport au monde externe. Maintenant, arrivé à mon âge, je me rends bien compte que c'est une aberration, mais je sais aussi que quelque part, cette façon de fonctionner au niveau inconscient est toujours là. Donc, une fois que j'essaie de faire régime, si je ne fais pas un gros travail en me disant, ben non, écoute, tu vas quand même être suffisamment fort que pour te protéger, là, j'arrive alors à ce moment-là à perdre, mais ça ne dure pas longtemps, en fait. Mais si je ne fais pas ce travail-là, je ne perds rien du tout, quel que soit le régime, et ça, c'est d'autant plus... embêtant, je veux dire, par rapport à ça. Donc là, j'ai un peu du mal à trouver une solution, et votre émission m'intéresse d'autant plus, parce que moi, je suis tout à fait persuadé que le mental a une part prépondérante, je veux dire, par rapport à tout cela. Parce que comme je l'ai dit à votre collaboratrice, le deuxième problème que j'ai aussi, c'est lorsque je suis chez moi, par exemple, pour le moment en hiver où je ne fais pas grand-chose, je vais avoir tendance à avoir toujours faim. Mmh. C'est la même chose au boulot. Je travaille dans un corps de secours, comme on n'intervient pas tout le temps, et mes collègues, c'est pareil. On a toujours tendance à manger énormément. D'ailleurs, je prends pratiquement un kilo de plus par rapport à la veille. Alors que si il fait bon, je suis à l'extérieur, je travaille dans mon jardin, je ne prends pas de poids. Et en vacances, comme j'ai des vacances très actives, c'est-à-dire je marche beaucoup, je voyage beaucoup, je ne prends jamais de poids. Mmh. Quoi que je mange, je ne prends pas de poids. Voilà.
Ça, c'est intéressant, parce qu'à mon avis, derrière le profil de Robert se glissent pas mal de profils d'autres personnes qui nous écoutent. Et d'autres personnes qui malheureusement nous écoutent pas, mais seraient bien intéressées de le savoir. Donc Robert, deux choses, en vacances, il mange moins. En fait, plus Robert est actif, moins il mange, c'est ça. Moins il a envie de manger, moins il pense à manger. Le corps est en
voilà,
action.
Peut-être il pense pas à manger. Oui. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'a plus faim. C'est là, il est distrait en fait par son activité. Peut-être que ça lui apporte d'autres choses qui font que justement manger n'est plus aussi important que d'habitude. Donc vraiment dans cette approche là, ce qui est important, c'est de trouver quels sont ses besoins émotionnels. Mmh. Donc dans cette approche, il y a trois besoins fondamentaux. On a premièrement un besoin physiologique de manger, parce qu'effectivement, quand on a faim, on a besoin d'énergie. Donc ça, cette faim, c'est le besoin physiologique. On a un deuxième besoin qui est le besoin nutritionnel. Par nutritionnel, on a des appétits spécifiques. Notre corps est très bien fait, il va chercher ce dont il a le plus besoin. Donc si on est attentif à ses sensations alimentaires et qu'on se dit « Ah, un bon steak juteux, là, ça me tente énormément », alors c'est sûrement que le corps a besoin de fer, par exemple. Si on a besoin on a envie de chocolat, alors c'est peut-être qu'il y a du magnésium et quelque chose dedans qui va vraiment nous faire du bien. Notre corps a besoin de ça.
Ça j'entends. Quand l'envie vient du corps.
Exactement. Après, faut savoir l'identifier, ouais, c'est ça, ouais. et respecter ses envies. Ouais. Parce que plus on essaye de ne pas les voir, le moment où on va pas très bien, on pourrait justement aller dans l'excès. Mmh. Donc c'est important d'identifier ses envies et ses besoins. Et le troisième besoin, c'est le besoin émotionnel. Donc ça, c'est autant important que la faim. Mmh. Donc le besoin de manger, si on a envie de manger pour une raison émotionnelle, ça nous rappelle un souvenir, par exemple, un souvenir d'enfance. Ou alors on se sent un peu seul, on a un besoin, on s'ennuie, mmh. On a un besoin de manger qui va nous aider à nous réconforter. Et bien ce réconfort est très important. Et ce qui est un problème, c'est lorsqu'on n'arrive plus à se réconforter avec un petit peu de nourriture, mmh. Et que là on rentre dans un cercle vicieux, on culpabilise, on est frustré et on mange trop, on fait une compulsion.
Tout à fait. Donc besoin nutritionnel, c'est le deuxième, émotionnel, le troisième, et
physiologique.
Voilà, le premier. Physiologique, les trois besoins. Et quand Robert dit aussi que, là c'est autre chose, il dit je fais une espèce de blocage, j'ai quand même eu un moment donné besoin de manger et d'être un peu en surpoids, il l'a peut-être pas dit, mais en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai entendu, pour être sûr de moi, pour en imposer. Mm-hmm. Pour moi, avoir du poids, c'est en imposer. Il n'est pas le seul à penser comme ça.
Voilà, donc ça c'est un besoin spécifique à lui et d'autres personnes partagent mmh. ça. Donc ça c'est très important à prendre en compte. Il faut pas nier ça. C'est un besoin, cette sécurité dont il parle.
Il doit entendre que son corps exprime ça.
Tout à fait. Et donc si après avoir le poids qu'il a lui fait souffrir, alors là il faut quand même, on va trouver ensemble comment le mieux répondre à ses différents besoins, son besoin d'avoir un corps qui lui correspond plus et son besoin d'avoir cette sécurité dont il parle, mmh. de garder cette assurance. C'est pour ça qu'un psychologue est bien indiqué, parce qu'il va pouvoir travailler par exemple l'affirmation de soi, aider à faire confiance à son corps, identifier les émotions qui nous font manger plus.
Ouais.
Donc voilà.
C'est tout ça c'est surtout ça que vous bossez alors, avec vos patients.
Par exemple, oui. Hein? Et vraiment identifier ces sensations alimentaires, ça, il y a pas mal d'exercices très précis pour arriver à faire ça.
Vous allez au fond des choses. IngridRichaud.com. De toute façon, je mettrai votre site internet sur la page Facebook de l'émission. Richaud s'écrit A-U-D à la fin. Vous êtes, on le rappelle, psychologue clinicienne spécialisée dans la prise en charge des troubles du comportement alimentaire. Et vous consultez en ce moment sur Bruxelles, sur Nivelles et sur Wavre. Nous parlons aujourd'hui des régimes alimentaire, pourquoi est-ce que ces régimes parfois ne vous satisfont pas, et surtout de cette méthode alimentaire qui ne porte pas de nom. Non, elle porte un nom ou...
On peut l'appeler l'approche biopsychosensorielle parce que c'est ce qui représente vraiment cette approche, même si le nom est un peu compliqué. Donc moi j'appelle ça tout simplement une approche anti-restriction, anti-régime.
Anti-restriction, anti-régime. Quand vous dites restriction, restriction, ça veut dire quoi, restriction?
Donc dans les restrictions, on peut parler de justement, qu'est-ce que c'est qu'une restriction? Ça peut être une quantité qui est limitée, par exemple, on dit X grammes de viande,
oui, je mange moins,
de féculents.
Donc, je mange moins, oui,
on ne peut manger des pâtes qu'une fois par semaine, par exemple, c'est une restriction. Les mélanges qui sont autorisés, comme dans le régime Montignac, où on dit...
Association,
exactement. Ça, c'est un contrôle aussi. Une méthode de cuisson peut être un contrôle. Manger à certaines heures, et alors aussi la façon dont on ingère les aliments, se dire, allez, toutes les 20 secondes, je prends une bouchée, ça c'est complètement aussi dans le contrôle. Donc c'est anti-contrôle, c'est vraiment votre corps qui va vous dire quelle est la meilleure méthode pour vous.
Trouver le bon équilibre, parce que le corps vous parle, à vous. J'arrive chez vous, bonjour, m'appelle Sylvie, j'arrive avec mon corps a des choses à vous dire, c'est un peu ça quoi.
Oui, on pourrait voir ça comme ça. Ça prend un petit peu de temps pour arriver à écouter son corps. Il y a vraiment une communication qui se fait entre le corps et l'esprit, en fait.
Oui, mais si on n'écoute pas son corps, c'est parce qu'on ne le veut pas, on ne le comprend pas.
Parfois, on se fie trop à des croyances alimentaires par rapport à la santé. Mais si j'écoute mon corps, aller trop loin dans l'excès.
Oui. En général, quand on vient vous voir, ce sont des personnes qui sont en surpoids qui viennent vous voir, des personnes qui sont mal qui n'ont pas un bon rapport à l'alimentation. Qui vient vous voir le plus souvent?
Le plus souvent, c'est les personnes en surpoids. Maintenant, les personnes qui sont en sous-poids peuvent venir aussi.
C'est bien ça. On avait une question par rapport à ça. Une personne qui disait qu'elle avait perdu énormément de poids depuis une séparation d'après 25 années de mariage. Elle a énormément perdu de poids. Elle dit trop manger, oui, mais pas assez manger. Moi, c'est en tout cas ce qui m'importe de savoir, parce que si votre méthode existe pour pouvoir manger, cela serait bien aussi. Donc ça aussi, alors.
Tout à fait. Cette approche, en fait, permet d'avoir son poids d'équilibre. Donc retrouver son poids d'équilibre, c'est le poids qui va être le meilleur équilibre entre vos apports alimentaires et vos dépenses énergétiques. Donc c'est votre poids de faim. Trouver votre faim, manger quand vous avez faim, quand vous avez envie, manger un petit peu. Quand vous sentez qu'il y a un besoin émotionnel, essayez de l'identifier pour travailler dessus, soit autrement que la nourriture, si ça commence à devenir votre seule manière de compenser pour cette émotion.
Isabelle, vous avez déjà fait pas mal de régimes. Hein, beaucoup. Bonjour à vous, Isabelle.
Oui, bonjour Ingrid, bonjour Sylvie.
Ça ne marche pas, dites-vous, vous perdez, vous reprenez. Enfin voilà, c'est pour ça que c'est intéressant ce que vous entendez là, Isabelle.
Ben oui, oui, c'est très intéressant parce que, en fait, moi, je suis convaincue par cette méthode, puisque les régimes, j'en ai fait depuis que j'ai 15 ans. Et ce que je disais, c'est que je ne suis pas obèse, mais je ne suis pas mince. Hein, donc, je fais 1m70, mon poids, c'est 92. On dirait mon poids de forme, mais les critères de la beauté ne sont pas celui-là. Donc, évidemment, je ne me sens pas bien dans mon corps. Et j'ai déjà testé pas mal de méthodes. Et si je me restreins et que j'ai des frustrations, c'est sûr que je perds. Bon, maintenant je perds très peu, hein, mais j'arrive à perdre. Mais j'ai repris si je ne fais pas cette frustration de manger moins et de manger mieux. Et encore, on ne peut pas dire que je mange mal, mais je grignote énormément. Je crois que c'est ça, énormément de sucre. Donc comme je suis diabétique, ça ne s'arrange pas parce que dès que je touche au sucre, ça y est, je ne sais plus m'arrêter. Je disais, je suis suivie à Saint-Luc, donc des diététiciennes, etc., qui ne m'imposent pas des régimes draconiens, mais qui m'ont quand même dit qu'il fallait essayer de trouver une thérapeute Ou un thérapeute sur les psychologies alimentaires, etc. Parce qu'il y a quelque chose qui doit se régler par rapport à ça. Donc voilà, et je suis comme Robert, c'est-à-dire qu'en vacances, je ne grossis pas parce que je suis bien. Donc je mange pas plus qu'il ne faut et surtout je ne grignote pas. Quand je ne travaille pas, je ne grignote pas. J'ai un travail dans le social, évidemment, avec les émotions, ce qui n'arrange pas. Quand je suis très prise par les émotions, ben voilà, je mange et je mange du chocolat, je mange voilà.
Bon, bah tout ça vous parle, je suppose, hein, Ingrid.
Ah, oui, oui, ça me parle. Mais je me dis aussi que c'est pas facile parce que j'entendais le centre d'orthonutrition de Tournai.
Oui.
Ben oui, j'y suis allée il y a 10 ans.
Oui.
Peut-être que ça a changé, mais ça demande énormément de temps. Bon, ben ça, ça va encore. Mais c'était pendant les heures de travail. Et quand je n'ai plus su aller en journée, ben, on ne savait rien me proposer d'autre. Mmh. Alors je ne sais pas si ça a changé, mais c'était jusque 5 heures, je crois.
Une différence importante à faire, aussi Ingrid Richaud, c'est la différence entre le poids et la santé. Les personnes confondent souvent l'un et l'autre.
Alors, souvent, les personnes qui viennent me voir me disent « Oui, mais moi, si j'écoute mes sensations alimentaires, j'ai envie de manger des crasses tout le temps. » Comment est-ce que je vais arriver à avoir une bonne santé avec ça? C'est pas du tout ce que préconisent les diététiciennes et mes médecins et tout ça. Donc, en fait, déjà, c'est assez difficile de savoir avoir une bonne santé. Ça prend du temps de savoir arriver à manger de manière équilibrée et tout ça. Évidemment que ça, c'est le but final. Mais ça, le but final, c'est d'arriver à avoir envie de toutes ces choses-là.
Mmh.
Et donc, d'être équilibré avec le temps. Mais comme le poids, c'est déjà quelque chose de très difficile à gérer, une fois qu'on a réussi à perdre du poids, alors là, on aura aussi beaucoup plus de ressources pour se diriger vers une meilleure santé. Et donc, mais qu'est-ce que c'est que la santé au final? Parce que on doit aussi différencier le fait de manger quelque chose de sain et d'être en bonne santé. Alors souvent, on confond les deux. On a l'impression que si on mange que des choses saines, on sera en bonne santé. Alors déjà, psychologiquement, je peux vous dire que ça sera tellement difficile, vous aurez tellement de frustration que vous n'aurez déjà pas une très bonne santé mentale. Vous avez peut-être entendu de l'orthorexie. C'est cette maladie d'avoir besoin de manger que des choses saines tout le temps, de contrôler un maximum son alimentation. Donc là, c'est vraiment pas l'idéal qu'on cherche non plus. L'idée, c'est d'être libre.
C'est ça, de plus avoir de contrôle autonome. Du tout, de toute façon.
Voilà, en fait, le contrôle, c'est vraiment ça qui est néfaste. Donc, c'est vraiment arriver, en même temps, le corps a son propre contrôle. Donc, c'est le contrôle de la faim, c'est ses régulations. La régulation du corps, c'est un contrôle. Ce contrôle-là, ça va. Mais le contrôle qu'on rajoute avec le mental, ça, c'est néfaste. Mais donc, la santé, c'est aussi... intéressant de le voir selon une étude qui a été faite à l'université de Kansas qui démontrait justement qu'un homme qui avait bloqué son alimentation à 1800 calories, donc évidemment je ne vous demanderai jamais de faire ce genre de choses parce que c'est une restriction, mais là c'est plus pour vous montrer le lien entre la santé et ce que la personne mange. Et en fait, cette personne-là mangeait énormément de junk food, donc de crasse toute la journée. Mais bon, il avait bloqué son alimentation à 1800 calories pendant 10 semaines. Cette personne-là a perdu 10 kilos alors qu'elle mangeait que des choses malsaines. Et en plus de ça, ses prises de sang ont montré en fait une amélioration du cholestérol. Donc tout allait mieux, ses glucides ont baissé. Enfin, tout dans sa prise de sang montrait que tout s'améliorait niveau santé. Donc c'est quand même impressionnant de se dire que ça fonctionne pour la santé, alors qu'ils mangent que des choses qu'on considère malsaines, juste en mangeant moins.
Vous allez nous parler donc dans quelques instants de cette sorte de faim. Il y a plusieurs sortes de faim, m'avez-vous dit. J'ai noté certaines sortes de faim. Il y a la faim des yeux, la faim du nez, la faim de la bouche, la faim de l'estomac, la faim des cellules, la faim de l'esprit, la faim du cœur. Voilà, j'ai cité les 7 sortes de faim. Et puis vous parlez aussi de dégustation attentive. Dégustation attentive, ça veut dire être pleinement conscient.
Pleinement conscient, avec ses 5 sens, vraiment de profiter de l'aliment, de vraiment consacrer du temps pour le déguster.
Et donc ne pas manger à la va-vite, pas le manger en faisant autre chose.
Pas devant l'ordinateur, voilà, idéalement.
Voilà, donc vous apprenez à vos patients, encore une fois, que vous recevez plein de choses, dont ça, dont la dégustation attentive.
Oui.
Quand vous posez la question, est-ce que vous dégustez attentivement ce que vous mangez ?
Alors, je peux leur poser la question, je peux même leur faire une dégustation attentive
chez
en séance, oui. Donc, je leur demande d'arriver avec leur aliment préféré ou quelque chose qu'ils adorent et de vraiment prendre le temps. Ça peut durer 20 minutes, comme une demi-heure, et vraiment prendre le temps de sentir l'aliment avec tous ses sens et de le regarder avec un tout nouveau regard. Donc vraiment comme si on n'avait jamais vu cette chose-là avant.
comme un enfant finalement.
Un peu comme un enfant, oui.
Parce qu'un enfant, j'ai lu ça aussi dans les notes que vous m'avez remises, un enfant jusqu'à 4 ans, c'est spontanément quand il a faim et quand il a assez mangé.
Oui.
Ça aussi c'est important à savoir. Donc lui, la satiété, quand il a plus faim, il a plus faim. Ça sert à rien, nous les parents, de dire « si, mange encore, mange toute ton assiette ». Finalement, c'est un mauvais service qu'on lui rend.
Moi, je dirais que oui, parce que bon, c'est important de pas se forcer à terminer son assiette si on n'a plus faim. Sinon, on s'habitue à se forcer.
Quand on connaît son enfant, on sait si c'est un peu de mise en scène ou s'il n'a réellement plus faim.
Ouais. C'est un peu plus compliqué.
C'est important, évidemment, de le savoir. Véronique, est-ce que vous avez déjà fait de la dégustation attentive ? Bonjour.
Bonjour Sylvie, bonjour Ingrid. Alors bien sûr, je fais la dégustation attentive. J'apprends ça aussi à mes élèves. Je suis enseignante.
Oui.
Et donc je donne cours à des élèves entre 12 et 18 ans. Et je remarque simplement qu'à cet âge-là, il y a des transformations dans le corps qui sont vraiment extrêmement rapides, extrêmement violentes. Et que j'ai énormément d'élèves qui ont du mal à s'accepter à cet âge-là, spécialement les jeunes filles. Et donc, il y a un très gros risque d'anorexie. On a vraiment dans nos écoles beaucoup de cas d'anorexie. Et je trouve que cette méthode, quand elle est enseignée avant, est merveilleuse parce qu'elle permet de s'accepter soi-même, de faire attention à ses propres besoins et de s'accorder en paix avec son corps. Et je trouve que c'est aussi pour des enfants, des jeunes gens, des jeunes filles qui deviendraient doucement anorexiques, pour les parents qui remarquent les premiers signes, je trouve que c'est vraiment essentiel de permettre à un adolescent d'apprendre cette méthode. Pour moi, j'utilise ça comme prévention et je ne peux que le recommander, j'en suis persuadée. C'est évident, une fois qu'on connaît la méthode, on se rend compte qu'elle est vraie, qu'elle est juste. Quand j'ai joué au tennis et que j'ai transpiré, j'ai envie de chips. Quand j'ai dormi un peu devant la télé et que j'ai pas assez dormi, je me réveille avec une faim d'enfer. Et maintenant, je sais pourquoi j'ai faim. J'ai faim parce que je n'ai pas assez dormi, pas parce que j'ai besoin de manger. Il y a tout plein de choses comme ça que l'on découvre sur soi-même petit à petit quand on fait cette méthode-là, qu'on suit cette méthode-là. On écoute son corps. Donc moi, je remercie très profondément Ingrid de m'avoir fait découvrir cette méthode. Je suis sûre que ça me sert à moi, mais aussi à mes élèves. Et mes élèves font des travaux là-dessus, font des recherches, et ils sont tous très intéressés par cette façon de voir.
Bonne porte-parole, hein. Bon, puisqu'on vous a sous la main, Véronique, ça vous a pris combien de temps quand vous avez consulté, donc, pour apprendre toute seule et pour maintenant avoir ce rapport toute seule comme une grande à la nourriture?
Je crois que je suis en route et que je n'ai pas fini. Ah. C'est-à-dire que petit à petit, j'ai écouté donc ce que j'ai eu comme information d'Ingrid. J'ai écouté aussi sur Internet ce que disaient certaines personnes, spécialement une personne du Canada dont elle pourra peut-être vous parler. Il y a des vidéos là-dessus. Et puis, c'est petit à petit qu'on se rend compte, tiens, c'est vrai, le soir, j'aime bien manger un petit fromage blanc. Mais pourquoi j'ai pas faim? C'est parce que c'est doux en bouche. J'aime bien. On parvient à découvrir petit à petit son corps. C'est pas une méthode où tout à coup on a l'illumination. On apprend à écouter son corps et ça prend du temps. Mais c'est très enrichissant et puis on se dit mais c'est évident que j'ai faim, j'ai pas assez dormi. C'est évident que j'ai envie de manger du chocolat parce que je suis triste. Je vais aller voir mes copines. Il y a tellement de choses qui paraissent évidentes une fois qu'on a compris que notre corps a des besoins et que nous, stupidement, on croit toujours que c'est des besoins de nourriture.
Mais c'est qu'elle est convaincante, hein, Véronique. Elle est convaincue, convaincante. J'ai quand même retenu ça. Donc quand vous suez, quand vous jouez au tennis, vous avez besoin de chips parce que c'est ça, un manque de sel. Le sel est parti, c'est ça.
C'est ça.
Voilà, par exemple.
Oui, c'est ça. On a évacué trop de sel, quoi.
Mais après, c'est très variable. Chacun va trouver ce dont
ah ouais.
Là où il est carencé. Son corps va lui dire.
Oui. Elle est carencée en chips et donc elle mange des chips. Donc on l'a bien compris après son match de tennis. Enfin, c'est fou quand on entend ça. C'est sûr que donc oui, il y a pas de règle d'or. Donc vous n'allez pas dire ah, si vous faites beaucoup de sport, vous allez devoir manger plus de chips. Non, c'est pas comme ça que ça se passe.
Non, pas du tout.
C'est du cas par cas encore une fois.
Oui, c'est vraiment la personne, son corps et son propre diététicien en fait.
Oui, mais quand Véronique arrive, quand moi aussi j'arrive chez vous, que vous ne me connaissez pas, ça prend du temps quand même de que vous connaissiez mon corps et mes habitudes alimentaires.
Mais c'est, je vais vous aider, vous guider à vous connaître mieux. C'est pas moi qui vais vous dire
qu'est-ce que je dois manger,
ce que vous devez manger, non. Mais oui, effectivement. Et puis ça aussi, c'est très variable. Il y a des personnes qui vont très vite intégrer les concepts parce que voilà, ils n'ont pas d'autres problèmes au-dessus qui les empêchent de s'adresser à leurs sensations alimentaires. Souvent, ils vont avoir d'autres problèmes plus urgents à travailler. Ah, ils se rendaient pas compte. Ils venaient d'abord pour gérer leur poids. Et finalement, voilà, il faut d'abord travailler peut-être une dépression sous-jacente, un trouble anxieux ou quelque chose. Mais une fois qu'on arrive à ça, et que la personne arrive à lâcher le contrôle, parce que ça aussi, il y a beaucoup de personnes qui veulent une solution rapide, miraculeuse. Mm-hmm. Il y a beaucoup de personnes à l'extérieur, dans le marketing, qui vont vous promettre ce genre de choses. Donc, peut-être que cette personne est plus convaincue par ça pour le moment, et c'est dans ses droits. Et donc, peut-être qu'un jour, elle aura envie de faire un travail plus en profondeur pour régler ça, pour être autonome et libre face à l'alimentation.
Est-ce que vous savez voir aussi, est-ce que vous avez mangé avec satiété? Combien de personnes, à votre avis, si on met, je sais pas moi, 100 personnes devant nous, et si vous posez la question, vous, Ingrid, de savoir qui mange, qui sait respecter la satiété, donc le degré de satiété, comment on dit, est-ce que le taux de satiété, le
fait... Alors, déjà, il faut faire une différence entre la satiété et le rassasiement.
Oui.
Donc, la satiété, c'est quand on n'a plus faim du tout. Le rassasiement, c'est quand on n'a plus faim d'un certain aliment. Donc, par exemple, on mange, on se dit, ah, j'ai plus envie de légumes, donc je suis rassasiée des légumes,
mais
j'ai encore faim pour le dessert.
Le reste. Ah oui.
Donc, je ne suis pas encore arrivée à satiété.
Ah oui, non. Satiété, ça veut dire qu'on n'a plus faim du tout, quoi. Du tout.
On n'a plus envie de manger du
tout. Envie. C'est plus envie ou plus faim?
Alors, pourquoi est-ce qu'on mange? On mange parce qu'on a faim ou parce qu'on a envie?
C'est la première question à se poser.
Voilà. Donc déjà, on mange parce qu'on a envie. Parce que si on n'a pas envie mais qu'on a faim, on ne va pas manger. Donc c'est vraiment parce qu'on a envie. Donc pourquoi est-ce qu'on ne mange plus? C'est parce qu'on n'a plus envie de manger. Donc c'est cette satiété-là qu'on cherche.
Quand vous recevez les patients chez vous, donc en consultation, vous parlez comme ça, c'est exactement ça, vous parlez avec eux de ça.
Oui, oui.
Quels sont les exercices pratiques que vous faites avec eux? La dégustation
Alors
attentive,
déjà,
oui.
Essayer de repérer les sensations alimentaires. Pour ça, on peut commencer avec l'expérience de la faim. Donc l'expérience de la faim, c'est par exemple sur 4 matinées, on va vous demander vraiment de vous lever et de vous dire « est-ce que j'ai faim ?» et d'évaluer le degré de faim que vous avez. La plupart du temps, les patients qui font ça ne ressentent aucune faim. Parfois, ça leur fait peur, ils se disent « c'est pas possible, je n'ai pas faim, il est déjà 13 heures ». Donc voilà. Après, si on la ressent avant, très bien. En fait, l'idée n'est pas du tout compétitive, c'est pas quelque chose de performant, c'est pas d'attendre le plus longtemps possible, c'est vraiment juste d'arriver à observer cette faim. Et comment est-ce qu'elle est décrite? Est-ce que c'est des gargouillis qu'on ressent? Est-ce que c'est vide?
Oui.
On sent vraiment ce creux?
Oui.
Bon, il y a des patients qui vont me dire, moi, je sais pas, j'ai pas faim, et tout d'un coup, j'ai très mal à la tête, je me sens faible, je suis limite en hypoglycémie, enfin, je vais vraiment pas bien.
Oui.
Et là, en fait, ils ont attendu trop longtemps. Là, ils sont arrivés dans la trop grande faim. Donc, arriver à trouver sa faim, sa bonne faim, pas avoir trop peu faim ni trop faim, ça prend du temps. Ça peut prendre quelques mois, ça peut prendre quelques semaines. Ça dépend vraiment des personnes. Mais cette expérience de la faim est déjà le premier exercice que je donne pour arriver à l'identifier mieux et la respecter aussi et voir... quelles émotions surgissent quand on a faim? Est-ce qu'on a terriblement peur? Alors, il y a des personnes qui ne supportent pas ressentir la moindre faim. Ils sont intolérants à cette sensation. Et donc, ça, on va travailler aussi avec eux.
Mm-hmm.
Il y a toutes sortes d'exercices. Donc, il y a dégustation d'aliments tabous aussi. Donc, pour voir, faire l'expérience qu'un aliment tabou qu'on croit être...
Qu'on croit être tabou.
Voilà, on a l'impression que si on mange tel aliment, on va prendre un kilo, deux
chocolat,
kilos.
Quoi. Si je mange toute la tablette, par exemple, si je mange toute la tablette, je vais prendre... voilà, je me sens mal parce que un morceau, ça va, mais je vais manger toute la tablette.
Voilà.
Vous allez me faire manger toute la tablette en consultation pour voir un petit peu comment je me sens?
Je vais vous demander de manger autant que vous le voulez tout en la dégustant.
Ah oui,
la plupart du
parce
temps...
Parce que je vais m'arrêter avant.
Quand on déguste vraiment l'aliment avec tous ses sens, Alors souvent, on a des patients même qui vont dire finalement, en fait, je n'aime pas du tout ça, je trouve ça écœurant.
C'est fou, ça.
Alors c'est vraiment impressionnant parce qu'ils aiment ça psychologiquement. Ils ont une croyance liée à un souvenir d'enfance, ils ont l'impression d'adorer. Ils le sentent, ils se disent, en fait, je n'ai jamais senti cette madeleine ou cet aliment. Et donc, en le sentant, ils se disent, en fait, je n'aime pas déjà l'odeur. Bon, je vais la déguster, prendre le temps de la déguster. Et alors parfois voilà, ça change, parfois ça ne change pas, mais par contre comme ils en profitent beaucoup plus, parce que ça aussi peut-être on peut en parler un peu après,
oui.
Le plaisir, plus on va ressentir ce plaisir, plus on va être rassasié. Et en fait, plus on va ressentir ce sentiment de satisfaction. Donc le but est comment être le plus satisfait possible, parce que c'est ça qui va nous aider à être rassasié et ne plus avoir envie de continuer à manger.
Vous n'avez pas d'heure pour manger, alors, si je comprends bien, quand vous écoutez votre corps?
Alors, au départ, effectivement, c'était n'importe quoi. J'avais faim à n'importe quel moment, moi, quand je le faisais. Quand j'ai des patients qui viennent me voir aussi, ils se disent « je ne peux pas manger avec mes enfants, ce n'est pas possible ». Et ça, c'est très embêtant, parce que il faut prendre ça en compte. C'est une valeur, c'est important
sociale,
pour manger
quoi.
En famille.
Il ne faut quand même pas manger tout seul dans son coin.
Exactement. Ouais. Mais alors, il faut juste se dire que c'est temporaire, que c'est une transition. Il faut passer par là, la plupart du temps, pour arriver à respecter sa faim. Parce qu'une fois qu'on a appris à respecter sa faim et de savoir comment elle est, parce qu'on apprend à reconnaître les signaux de notre propre faim, quand est-ce qu'on est dans la bonne faim, eh bien là, on arrive beaucoup mieux à réguler sa faim pour se dire, alors j'ai envie de manger avec ma famille le soir, donc si j'ai faim à 5 heures, j'ai quand même envie d'avoir faim à 8 heures ou à 7 heures, donc je vais faire en sorte de manger un peu moins, mais vraiment ce qui me plaît, pour avoir faim à 7, 8 heures. Donc c'est un peu difficile au départ de mettre cet effort en place. Mais à la fin, vous n'y pensez plus, ça deviendra automatique et vous ne pouvez plus perdre ça.
Bon, je demande aux auditeurs s'ils respectent leur faim. Est-ce que quand vous avez une faim qui vous tiraille, quels sont les symptômes peut-être de cette faim? Est-ce que vous la respectez? Est-ce que vous mangez, vous avez l'impression de manger jusqu'à satiété? Est-ce que vous arrivez à... Est-ce que vous respectez ça? Est-ce que vous vous dites à un moment donné, non, j'ai plus faim, j'arrête? Ou est-ce que vous vous forcez à manger le reste de votre assiette? Ou de vous dire, ah oui, mais non, je vais quand même manger plus parce que dans une heure, je vais avoir faim. Donc je vais quand même manger plus. Est-ce que vous êtes comme ça aussi? Est-ce que finalement, vous ne vous écoutez pas?
Et aussi la peur du gaspillage.
Parfois,
on va se dire, mais je peux pas gaspiller, il y a des gens qui meurent dans le monde de faim, je peux pas faire ça.
Je termine mon assiette, ça c'est un peu moi, je suis un peu anti-gaspi moi. On parle de cette méthode, on la met même du bon côté, cette méthode proposée par une Canadienne notamment aussi, Guylaine Guévremont, et vous nous avez parlé aussi d'un groupe de réflexion sur l'obésité, le surpoids, le groupe GROS. Groupe de recherche sur l'obésité et le surpoids.
Groupe de réflexion.
De réflexion.
Oui.
C'est pas mal. C'est pareil.
C'est pas loin.
Groupe de réflexion donc sur l'obésité et le surpoids. Ça s'appelle GROS. Voilà, c'est un nom qu'on retient, bien entendu. Hein.
Cette association existe déjà depuis plus de 20 ans.
Mm-hmm.
Donc elle se développe de plus en plus et l'approche. Aussi, elle est adoptée par cette Canadienne Guylaine Guévremont qui laisse des vidéos très sympathiques sur YouTube et qui a une clinique à Montréal avec une équipe pluridisciplinaire. Voilà, et puis le centre d'orthonutrition de Tournai.
D'accord, donc allez voir tout ça sur internet, mais surtout son site internet à notre invitée d'aujourd'hui, Ingrid Richaud, qui est psychologue clinicienne spécialisée dans les troubles donc du comportement alimentaire. Pierre, bonjour. Bienvenue
bonjour.
Dans cette émission, Pierre. Alors, votre problème, c'est plutôt le fait de ne jamais vous satisfaire d'un morceau, je parlais justement d'un morceau de chocolat ou de la tablette, vous ne pouvez pas vous arrêter, vous, Pierre. C'est ça, quand vous mangez quelque chose, vous allez jusqu'au bout. Vous avez besoin d'ingurgiter plusieurs plaquettes même, c'est pas qu'une plaquette de chocolat.
Oui, tout à fait, c'est pas uniquement la plaquette, hein. C'est pour divers aliments. Généralement, c'est tout ce qui est sucré.
Oui.
Je ne parviens pas à me satisfaire d'une petite quantité. Je suis rassasié quand je mélange même plusieurs produits, plusieurs quantités. Alors, ça peut être des chips, des bonbons, du chocolat, des pralines, etc. Et j'en arrive jusqu'à en avoir mal au ventre.
Oui.
Alors, bon, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris conscience il y a quelques années de ce problème-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour pallier un peu, parce qu'il y avait des problèmes de poids qui étaient engendrés. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis au sport régulièrement et je fais un peu à ce que j'ai lu sur Internet, etc., de la boulimie compensatoire. Mmh. Bon, c'est moi qui interprète, bien sûr. Mais voilà. Donc, ce qui fait que je fais énormément de sport, justement, pour pallier à ce problème d'alimentation que j'ai. Et je me fais suivre depuis quelques mois par un thérapeute. Et le fait d'en parler un peu au thérapeute, j'ai l'impression que cette boulimie-là a tendance à s'atténuer. Mais les crises sont quand même persistantes. Et au lieu d'avoir un rythme de 10 fois par mois, par exemple, maintenant j'en arrive à 4-5 fois. Et ce qui se passe, c'est aussi, ça engendre également énormément de frustration et de culpabilité, le fait de manger comme ça. Donc voilà, j'essaie de prendre le taureau par les cornes en allant consulter et en faisant énormément de sport. Et voilà quoi.
Uh-huh. Vous avez beaucoup de patients qui vous disent ce genre de choses?
Oui, c'est vraiment un problème qui arrive à beaucoup de personnes. Et effectivement, ça, il faut voir si... En règle générale, est-ce que vous vous privez de ces aliments et donc le fait de commencer fait que là, c'est comme si vous devez compenser pour toutes ces autres fois où vous vous êtes pas permis de manger ces aliments-là. Enfin, en tout cas, il faut creuser et voir quels sont les besoins parce que ça répond à un besoin. Si vous faites ça, c'est que ça, quelque part, oui, ça vous frustre et ça vous augmente ce sentiment de culpabilité au bout d'un moment, mais ça répond quand même à la base à un besoin à vous. Et donc, il faut creuser et examiner quel peut être ce besoin et surtout ne pas vous priver. En règle générale, si vous avez envie de ces aliments-là à midi ou le soir, souvent on associe ces épisodes-là à un peu du grignotage ou après en fin de soirée. En fait, peut-être ça pourrait être une solution pour vous d'essayer de les intégrer dans vos repas en fait de la journée plutôt que externe à ça.
Qu'est-ce que vous faites quand vous... Oui, je vous écoute, Pierre.
Il y a un gros constat aussi, c'est qu'en effet, j'ai fait un régime assez draconien pendant un an et c'est durant cette période de régime où je craquais. Mais où je craquais énormément en quantité. Et j'ai pris conscience également que maintenant, le fait que je me prive moins et que je m'autorise à prendre les aliments que je m'interdisais beaucoup auparavant, que maintenant je constate que je diminue les quantités parce qu'il y a moins de frustration. Et je constate qu'auparavant, quand il y avait énormément de frustration, là c'était très difficile parce que je me privais. Et maintenant je prends conscience qu'en ne me privant pas et en m'autorisant un peu plus lorsque j'en ai envie, je constate que les quantités sont moindres.
Voilà, c'est aussi pour ça que dans les régimes, justement, un des problèmes de la privation, c'est que ça nous coupe de nos sensations alimentaires et ça nous déséquilibre. Et donc, parfois, il faut un moment d'adaptation une fois qu'on a terminé un régime pour retrouver cet équilibre en soi.
Bien, bien, bien. Merci Pierre pour votre intervention. C'est vrai que, comme vous dites, il faut toujours bien avoir en conscience si on est guidé par de la faim ou par de l'envie de manger. Qu'est-ce que vous faites, vous? Ça, c'est du concret. Quand vous avez une soudaine envie, une fringale, vous en avez quand même ou jamais?
Ah si, bien sûr, j'en ai comme tout le monde.
Alors, qu'est-ce que vous faites?
Alors moi j'écoute vraiment mes envies déjà, donc oui, je n'ai pas toujours faim quand je mange. Il y a plein de moments où j'ai envie de manger quelque chose parce que c'est bon, parce que j'ai une amie qui m'a cuisiné qui me fait un gâteau, ou je veux le manger pour des raisons émotionnelles, et donc j'en profite pleinement. Et en fait, soit je vais manger une quantité qui sera d'office un surplus parce que voilà, j'ai déjà bien mangé avant aux autres repas. Et donc dans ce cas-là, en fait, manger trop n'est de toute façon pas un problème parce que le corps va se réguler de lui-même. Donc il suffit, après qu'on ait trop mangé, d'attendre à nouveau d'avoir faim pour que son corps se rééquilibre tout seul. Alors, donc je fais ça. Donc, si par exemple je mange un peu trop le soir ou c'était une fête, j'en profite pleinement. Et puis le lendemain, peut-être que mon petit déjeuner va être décalé de quelques heures. Peut-être même que je vais sauter le petit déjeuner.
Ah carrément.
Moi, je ne vais jamais pousser quelqu'un à manger ce qu'il n'a pas faim.
Ah oui, non, c'est ça. On dit, oh, il faut manger à l'heure
régulière. Ça, c'est une règle aussi externe à soi. Alors parfois on a besoin d'un petit déjeuner, parfois pas.
Ouais.
Et donc ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Et alors, si je veux vraiment manger un aliment très, très riche et réconfortant, Je vais en profiter pleinement, mais alors une petite quantité suffit si je n'ai pas faim. Je vais retrouver cette satisfaction. Je n'aurai pas besoin d'en manger une tonne.
Est-ce que vous prenez vraiment le temps de manger aussi ? C'est important de prendre le temps, non ? Dans votre méthode, non ?
Tant que le plaisir y est, le temps, en fait, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui adorent manger rapidement et ça, elles peuvent très bien prendre du plaisir rapidement.
Mais la notion de plaisir, elle commence où ? Elle s'arrête où, alors, la notion de plaisir ?
Elle commence, déjà, si on a faim, normalement, on a plus le temps d'apprécier les aliments, plus envie de manger.
Oui.
En général, c'est assez lié. Le plaisir aussi, ça va venir de quand on répond adéquatement à ses envies spécifiques du moment, le plaisir va être plus grand. Quand on mange par rapport à une émotion, un petit aliment riche et réconfortant, ça aussi, ça fait baisser le cortisol. C'est prouvé que c'est vraiment un aliment réconfortant. C'est pour ça qu'on est attiré par du gras ou du sucré quand on va pas très bien. Donc ces choses-là vont faire augmenter des émotions agréables, du plaisir, satisfaction, du réconfort. Et le moment pour savoir quand est-ce qu'on est à satiété, en fait, c'est quand on mange et que le goût commence, le plaisir qu'on a eu au début,
diminue.
Il commence à diminuer, exactement. Et alors, à ce moment-là, quand il commence à diminuer, on sait qu'on peut arrêter là.
Quand on ne dit plus « c'est bon ».
Voilà, on peut dire ça, mais alors peut-être que le soir, on n'aura pas faim, et donc peut-être que ça voudra dire qu'on mangera un tout petit peu au soir, ou qu'on attendra d'avoir vraiment faim.
Ouais. Je lis des messages. Tiens, Véro nous dit « Moi, j'ai pas faim, Sylvie, mais archi besoin de marcher, de croquer ». De mâcher, de croquer, alors vive les saletés croquantes, cacahuètes, chocolat, chips, etc. Donc elle dit qu'elle n'a pas faim, mais archi besoin de mâcher, de croquer.
Oui, alors
ça s'entend, ça vous l'entendez, ça?
Je peux. Oui, ça c'est quelque chose qu'on peut voir ensemble. Ça peut prendre un peu de temps pour décortiquer vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière ça.
Oui, bah, je m'en doute.
Voilà. Je ne peux pas donner une réponse comme
non,
ça.
Non, bien sûr. Mais donc, quelqu'un peut venir vous dire ça et vous essayer de comprendre pourquoi.
Oui.
Autre message, ce que votre invité dit est vrai. Me concernant, j'étais un gros mangeur de viande jusque 2012. Ensuite, à cause d'un surplus de cholestérol et de poids, j'ai changé de plan alimentaire car mon corps n'éliminait pas la viande. Ce fut difficile car j'adore la viande, mais j'ai compris que j'ai un système digestif de végétarien. Ainsi, depuis 2012, je suis devenu flexitarien. Résultat, plus de cholestérol du tout. 10 kilos de moins et mon corps est mieux. Impossible de témoigner car je suis au boulot. Dites aux auditeurs qu'ils doivent juste écouter leur corps, manger ce qu'ils veulent mais sans excès et aussi beaucoup bouger, nous dit donc cette personne. Stéphane écrit, on parle souvent de régime mais pour ceux qui veulent grossir, ce n'est pas facile non plus. Vous l'avez dit, votre méthode est adaptée à ça aussi, à ceux qui ne mangent, qui n'ont pas envie de manger. Qui ne ressentent pas l'envie de manger.
Alors, ceux qui ne ressentent pas l'envie de manger, ils sont tout simplement coupés de leurs sensations alimentaires. Ils ne sont peut-être pas en connexion parce qu'ils ont essayé avant de faire un régime ou ils ont d'autres préoccupations. Et donc, ça, c'est vraiment... c'est tout le temps d'arriver à se reconnecter.
Autre message d'une autre Véronique. Contente d'entendre votre invité, Sylvie. Oui, il faut accepter son allure, son poids, sa silhouette pour avancer. Si on n'accepte pas, c'est rendre invisible, inexistant. Comment peut-on solutionner ce qui est inexistant ? Moi, je mange quand j'ai faim et je déguste tant l'instant présent que mon repas et je suis bien. Donc je déguste autant l'instant présent que mon repas et je suis bien. J'adapte aussi en fonction de mon planning car les jours ne se suivent et sont différents. Nous dit Véronique, donc par rapport à ça, elle a, je pense, mis en place sa méthode à elle, et apparemment c'est assez proche de la vôtre. Oui. Sur Vivacité, nous parlons donc de la faim en général, de l'écoute de son corps, du respect simplement de son corps aussi par rapport à cette alimentation intuitive, cette approche, cette méthode bio.
Psychosensoriel.
Biopsychosensoriel.
Donc sensoriel parce qu'on écoute ses sens, on écoute vraiment des sensations.
Oui, oui.
Bio, c'est biologique et psychologique.
Psychologique, voilà. Ouais. Mieux communiquer avec son corps, mieux écouter son corps. Avant d'entendre Anne qui justement parle de son problème de faim ou de non-faim quand elle mange, les différentes sortes de faim.
Oui.
La faim des yeux. Moi, c'est la première que j'ai sous les yeux.
Alors ça, c'est un livre qui est sorti là-dessus. C'est de Jan Schozenbeis qui a annoncé donc sept sortes de fins. Il y en a peut-être plus, mais en tout cas, voilà, elle a délimité ces fins-là. Mmh. Et donc, c'est intéressant parce qu'on arrive mieux à saisir quelle est la fin du ventre, donc vraiment quand on a ses gargouillis, et quelle est la fin de, par exemple, on voit quelque chose. Donc la fin des yeux, on va voir une pâtisserie.
On visualise.
On visualise, on voit quelque chose qui a l'air tellement bon, c'est beau, on a envie de cette beauté en nous, on veut la manger. Et donc ça, c'est important à prendre en compte. Donc cette envie qui fait plaisir en plus. Donc on voit ça avec les yeux. Eh bien, c'est important de pouvoir respecter cette envie-là et de l'acheter, la déguster. Probablement, si vous n'avez pas cette faim accompagnée de ce vide à l'estomac et tout ça, vous allez apprendre à déguster cet aliment pour en tirer plaisir. Mmh. Mais aussi, vous allez savoir quand vous arrêtez, parce que vous n'aurez pas faim. Donc, ce sera émotionnel. Quand c'est émotionnel, vous allez apprendre à justement satisfaire ce besoin émotionnel et pas essayer de remplir votre estomac avec ça. Donc c'est quand même vous permettre de le manger en écoutant vos envies. Si vous avez envie de toute cette pâtisserie, il n'y a pas de problème avec ça. L'idée, c'est pas de culpabiliser, c'est juste d'attendre. Alors du coup, puisque c'était une sorte d'excès, mais dont l'humanité fait tout le temps, on fait tous des excès, donc ça fait partie. Juste d'attendre à que la faim arrive à nouveau après ça. Et donc, on a la faim du nez aussi, une odeur qui passe dans la cuisine, oui, qui nous donne vraiment envie. La faim des cellules aussi, ça, c'est par rapport aux appétits spécifiques. Donc, vraiment, de se dire, voilà, j'ai envie d'une banane, voilà, donc c'est rempli de potassium. Peut-être, voilà, vous avez envie de cette banane plus qu'un autre aliment parce que vous avez besoin de ce potassium, par exemple. Enfin, voilà, c'est vraiment toutes ces fins-là qui vont. Et la faim du cœur aussi, cette faim émotionnelle qui vraiment qui vous fait du bien, qui vous rappelle peut-être quelque chose que votre maman vous cuisinait quand vous étiez petit.
Et votre faim à vous, Anne, bonjour.
Bonjour.
Vous commencez votre message en disant « Ah, c'est effrayant. Je me rends compte en vous écoutant que je ne mange jamais par faim, Anne, dites-vous. »
Bon, à écouter, c'est Ingrid, je pense. En fin de compte, si j'ai faim, dans toutes les fins qu'elle a expliquées, j'ai faim avec les yeux, j'ai faim avec les envies. Je me suis rendu compte en vous écoutant, je me dis « Tiens, à quel moment est-ce que je mange ? Je mange quand je dois, je mange... quand j'ai très envie de quelque chose de gras, j'ai très envie de quelque chose de croquant, ou quand j'ai très envie parce que je vois ou parce que je sens, mais je ne mange, je n'ai jamais mangé, je pense, en tout cas dans ma mémoire, quand mon estomac me disait qu'il avait faim. Donc je mange certainement trop. Je me mets à table quand mes enfants sont là, parce que j'ai mes enfants une semaine sur deux, je me mets à table avec eux, c'est cadré, on se met à table, on déjeune, on se met à table, on dîne, on soupe. Ou alors, je n'appelle pas ça des fringales, j'ai des crises où, oui, je pense que ça comble quelque chose émotionnellement. Et je mange du gras parce que j'ai envie de gras, et je mange aussi parfois par plaisir, heureusement encore. Mais c'est souvent pour remplir quelque chose, hein. C'est compenser quelque chose. En tout cas, c'est me remplir. Moi, je dis toujours. Et j'ai souvent... j'ai fait des régimes, hein, depuis que j'ai... maintenant, j'ai 42 ans, premier régime, en deuxième secondaire. J'ai fait des régimes, je dis toujours que j'ai perdu plus de 150 kilos à moi toute seule, que j'en ai perdu du poids, j'en ai repris. Et je ne me suis jamais sentie comprise... J'ai cherché, je pense que mon comportement face à la nourriture n'est pas normal. J'ai toujours essayé de trouver quelqu'un qui pouvait m'aider. Et en ça, l'intervenante d'aujourd'hui éveille en moi quelque chose que j'avais oublié, parce que je tombais toujours sur des équipes qui travaillaient le comportement face à la nourriture pour des personnes qui avaient un problème parce qu'elles ne voulaient pas manger, ouais, pas dans le sens inverse.
C'est intéressant ce que vous dites, Anne, et c'est pour ça que dans quelques instants, par rapport à votre conclusion, parce qu'on arrive doucement à la fin de l'émission, vous reviendrez sur le témoignage de Anne. Alors, c'est vrai que manger par envie, manger par faim, finalement, ça a toujours été un peu les deux mots contradictoires et parfois complémentaires depuis le début de l'émission. Elle l'a dit, hein, il y a quelques instants, notre auditrice Anne, elle en a parlé, hein.
Oui, Ingrid. Tout à fait. Oui. Alors, tous les deux sont extrêmement importantes. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Donc, ici, la dame disait qu'elle n'avait pas, elle avait rarement faim physiologiquement.
Oui.
Donc, ça, c'est quand même probablement qu'il y a trop d'apport alimentaire par rapport à son activité quotidienne, à son métabolisme. Donc, c'est qu'il y a un déséquilibre. Donc, déjà, si cette personne arrive à bien écouter ses autres faims, c'est déjà quelque chose de très chouette. Ça montre qu'elle est quand même connectée à ses émotions. Et donc, maintenant, pour arriver à la connecter plus à sa faim, il faudra peut-être travailler la tolérance à peut-être justement être plus patient, attendre vraiment d'avoir cette faim, de ressentir cette faim. Alors parfois on parle de personnes qui sont intolérantes à cette sensation de faim, par peur, par phobie d'avoir faim. Donc ça c'est quelque chose que voilà qu'un psychologue est tout à fait indiqué pour aider à travailler sur ça.
Mmh.